Bonjour Olivier.
Bonjour Laurence.
Alors Olivier, vous êtes paroissien de la cathédrale de Tarbes. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 12 avril. C'est le dimanche de la Divine Miséricorde qui clôture la Semaine Sainte. Alors pour vous préparer à Pâques, vous avez vécu un exercice spirituel de 90 jours. Quel bilan en tirez-vous au terme de cette semaine pascale, Olivier ?
Alors cet exercice, effectivement, il a duré 90 jours, il nous a préparé en petits groupes, on était 9 cette année, à se préparer comme ça à Pâques. Et le bilan qu'on peut en tirer, enfin pour moi le bilan que j'en tire, c'est que par les assesses qu'on a pu mener, notamment par le silence qu'on a pu mettre en place en faisant volontairement, en éteignant la radio, en n'écoutant pas de musique, en étant moins sur les écrans, en ne regardant pas la télévision, on a fait le choix comme ça de se couper un petit peu du monde. Alors pas pour se couper du monde, mais pour se mettre un peu de côté, se préserver un petit peu. Et du coup, ça nous a rendu aussi beaucoup disponibles pour un des deuxièmes piliers qu'on avait dans notre exercice, qui était la prière, avec des grands temps de prière quotidiens. Donc du coup, on a pu se tourner dans la prière, et c'était important pour nous de... Enfin, pour moi, j'ai vraiment ressenti ce besoin ou cette... plus qu'un, pas un besoin, mais ce lien qu'il y avait entre le fait de faire silence et le fait de pouvoir s'ouvrir à la prière. Parce que on arrive souvent à la prière, par exemple à la messe le dimanche, souvent on arrive très encombré avec tout ce qu'on a pu vivre dans la semaine, etc. Et là, au contraire, en prenant du recul, en prenant comme une sorte de retraite où on se retire un petit peu en éteignant la musique, les films, etc., ça disposait le cœur un petit peu, ça laissait une place... pour être disponible et pour être disponible notamment à la prière. Donc c'est vrai que ça a été vraiment une expérience assez incroyable de pouvoir se rendre disponible à l'écoute de Dieu par justement ce silence.
Le silence, la prière, qu'est-ce que ça a eu comme effet ?
Eh bien, ça a eu un effet justement de rendre plus disponible dans la prière, mais du coup de rendre plus disponible à l'écoute de la parole de Dieu. Et de rendre plus disponible à, même dans ce que la liturgie nous propose au travers de la Semaine Sainte, chaque texte, chaque parole qu'on entend dans les liturgies de la Semaine Sainte, du Jeudi Saint, du Vendredi, du Chemin de Croix, de après la grande veillée pascale, ou dans le silence même de la nuit du tombeau, eh bien, il y avait une plus grande disponibilité à écouter la parole de Dieu. Et c'est comme aujourd'hui d'ailleurs, dans la messe aujourd'hui, cette proximité avec Dieu dans la prière, elle permet d'être davantage à l'écoute, d'être plus sensible à certaines paroles, et on a l'impression que du coup, les paroles qui nous sont données dans la liturgie, on les goûte mieux, on en profite plus, et on en tire plus alors davantage, entre guillemets, parce qu'on est plus disponible. Et ce matin, typiquement, j'ai été très très marqué par la deuxième lecture, l'épître de Saint-Pierre. On est dans un monde aujourd'hui qui va parfois un petit peu mal. On regarde autour de nous, on se dit waouh, il y a plein de choses qui ne vont pas. La guerre un peu partout, la crise économique, le prix du gasoil, etc. Et cette parole dans la deuxième lecture, justement dans cette épître de Saint-Pierre, il vous a fait renaître pour une vivante espérance. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. Et en fait, c'est quand même incroyable de se dire que Saint-Pierre nous appelle comme ça, même s'il y a des épreuves aujourd'hui, vous êtes affligés encore pour un peu de temps, parce qu'on est sur terre, mais vous exultez de joie à l'idée de l'espérance qui nous attend au ciel, et il parle de l'héritage qui nous attend au ciel, qui est un héritage incorruptible. Il dit dans cette épître, même l'or qui est pourtant éprouvé au feu, ben il va disparaître, va se corrompre, mais l'héritage qui vous est promis, lui, est incorruptible et il est au ciel. Voilà. Donc ça, c'était ce matin, cette parole que j'ai entendue pendant la messe était incroyable. Et de la même manière, dans l'évangile, je sais pas si on réalise parfois, saint Thomas, qui est le plus entêté de ceux qui n'a pas voulu croire en la résurrection. On a vu Saint-Pierre, Saint-Jean la semaine dernière appelé par par Marie de Magdala qui lui disait j'ai vu le Seigneur et qui viennent jusqu'au tombeau et qui sont dans le doute jusqu'à ce que Jean entre dans le tombeau après Pierre et là enfin disent il vit et il crut, mais en fait ils sont dans le doute. Lorsque les disciples d'Emmaüs viennent le soir, ils ne veulent pas croire, ils doutent, ils s'entêtent aussi dans le doute. Et pourtant, ils ont des apparitions aux disciples d'Emmaüs, à Marie de Magdala. Aujourd'hui, on voit dans l'évangile que Jésus leur apparaît, la paix soit avec vous, et Thomas n'est pas là. Et Thomas ne veut pas croire. Et Thomas dit, si je ne vois pas, si je ne mets pas ma main dans son côté, si je ne mets pas mon doigt dans ses mains, dans ses plaies, je ne croirai pas. Et il s'entête. Et Jésus vient, la paix soit avec vous, une seconde fois, 8 jours après. Et là, le cri de Thomas. Alors Jésus lui dit, vas-y, mets ton doigt, mets ta main, avance ton doigt. Jésus lui parle, et le cri de Thomas, c'est le premier qui dit ça. Mon Seigneur et mon Dieu. Il faut se rappeler que, on l'a entendu la semaine dernière dans la Semaine Sainte, Jésus a été condamné. Il cherchait des témoins, il n'en trouvait pas, il y avait des faux témoignages mais qui ne collaient pas, etc. Et Jésus finalement est condamné parce qu'il s'est dit fils de Dieu. Et les grands prêtres aussitôt disent « Mais qu'avons-nous besoin encore de témoignages ? Ne l'avez-vous pas entendu dire ?» Voilà, le blasphème. Et il est condamné pour ça. Et là, mais c'est fils de Dieu. Là, Thomas va plus loin. Il dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Et c'est le premier à dire cela. On imagine la sentence, la condamnation qui pourrait tomber sur Thomas en disant ces paroles-là dans un monde juif. Et donc... il y a cette parole incroyable de Thomas qui était le plus entêté. Et puis on voit tous les disciples, ceux-là qui ont trahi, qui ont renié, Jésus qui se retourne au moment de son jugement vers Pierre qui vient de le renier 3 fois et le regard qui se croise. Jésus sait ce qu'a fait Pierre. Et quand il vient, il lui dit juste « La paix soit avec vous ». Il ne condamne pas. Et aussitôt, il dit « La paix soit avec vous » et aussitôt, « Allez ». Et de toutes les nations, baptisez-les, pardonnez-leur, remettez les péchés, etc. Et on voit la mission. Et en fait, ces pauvres types, entre guillemets, qui ont trahi Jésus, qui l'ont abandonné, Jésus vient, leur propose la paix, et tout de suite, il leur fait confiance et les envoie. Et moi, souvent, je me dis, je suis comme eux, nous sommes comme eux, des pauvres types, avec le poids de nos péchés, et je fais lien avec ce que Pierre disait dans la deuxième lecture à l'instant, tout ce qui nous afflige sur terre, mais l'espérance qui est en nous nous invite à aller plus loin, à aller de l'avant et à croire que avec Jésus on peut être sauvé, on peut aller de l'avant. La conclusion de l'évangile aujourd'hui qui dit que par Jésus nous pouvons en croyant avoir la vie en son nom.
Merci Olivier. Alors concrètement, donc ce dimanche de la miséricorde, est-ce que vous pouvez dire que vous avez vécu dans votre parcours la miséricorde ?
Alors oui, parce que dans notre parcours là de 90 jours, on en est témoin à plusieurs, parce que comme je vous disais tout à l'heure, on était 9 à faire ce parcours-là. Et en fait, on a des assaises à faire, on a des temps de prière, on a une vie fraternelle qu'on essaie de vivre entre nous, avec un binôme ou en équipe. Et puis en fait, on se rend compte au fur et à mesure que le temps passe, parce que 90 jours, c'est à la fois long et court, paradoxalement. C'est très long quand on est dedans, et puis quand on arrive à la fin, on se dit que c'est passé très vite. Mais en fait, on a tous, les uns et les autres, sur des sujets différents, ou à des moments différents, expérimenté notre pauvreté. C'est-à-dire, on s'est rendu compte qu'à tel ou tel moment, il y a une assaise qu'on n'a pas tenue. Il y a quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. On fait des plans et puis en fait ça ne marche pas. Et en fait c'est extraordinaire de pédagogie parce que on se rend compte encore une fois qu'on est des pauvres types. On essaye de faire de notre mieux, on essaye de suivre le Christ, on voudrait réussir à lui donner tout. Et puis en fait on est dans ce monde affligé par des épreuves de ce temps et avec nos imperfections et on n'y arrive pas. On n'y arrive pas à tenir même, ne serait-ce que 90 jours. Alors on regarde le Christ dans la Semaine Sainte, on est arrivé à la Semaine Sainte avec tout ce cheminement qui nous a disposé à écouter et on voit le Christ qui supporte tout, à Gethsémanie, qui supporte tout sur le chemin de croix, dans le jugement, dans la flagellation, avec la couronne d'épines, sur la croix et sa mort, etc. Et nous, on a essayé de se battre un petit peu pendant 90 jours avec nos propres fragilités, nos propres faiblesses et on n'y est pas arrivé. Et en fait, l'intérêt, c'est pas de se dire... se regarder nous-mêmes en se retournant vers notre nombril en disant on est des pauvres types qui n'y arrivent pas. L'intérêt, c'est de se dire mais Seigneur, sauve-moi. Moi, j'y arriverai pas tout seul. je n'y arrive pas à la force du poignet, mais toi tu peux sauver, toi tu peux me sauver. Et l'intérêt, c'est justement de vivre dans nos propres échecs, dans nos propres difficultés, l'expérience concrète de la miséricorde de Dieu, parce que lui nous sauve. Et Jésus, comme on l'a vu dans l'évangile aujourd'hui, comme on le voit à chaque fois qu'il réapparaît aux disciples au bord du lac, quand il va préparer le poisson, le poisson est prêt, hein, les enfants, n'avez-vous pas quelque chose à manger? Ah non, on n'a rien pêché. Mais jetez à droite de la barque. Et là, ils font une pêche miraculeuse, la deuxième, parce qu'ils ont obéi, simplement. Et le Christ va recevoir Pierre, qu'il a renié trois fois, et trois fois va lui dire « m'aimes-tu ?» Voilà. Et il y a cette restauration dans l'amour, dans la miséricorde de Dieu. Et voilà, ben en fait, concrètement, dans ce temps, on a nous aussi pu vivre nos pauvretés, nos petits échecs. Mais en fait, c'est surtout la compréhension que c'est pas à la force du poignet, c'est pas par nous-mêmes qu'on va y arriver. C'est vraiment le Christ qui nous sauve, c'est lui qui vient nous sauver, qui nous prend par la main et qui veut nous emmener au ciel. Par contre, il a besoin de nous et il nous le dit. Et c'est complètement paradoxal parce que, encore une fois, on est des pauvres types, mais il a besoin de nous pour aller évangéliser, pour aller annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer notre espérance. Et donc, ça nous interroge sur... voilà, on est au dimanche de la miséricorde. Demain, c'est une semaine qui commence, lundi. Comment je vais être disciple? Comment je vais être apôtre? Parce que c'est à moi maintenant d'être apôtre de cette miséricorde. C'est à nous, c'est à chacun de nous d'être apôtre. Alors, autour de moi, dans ma famille, dans mon travail, dans comment je vais pouvoir annoncer la miséricorde de Dieu, annoncer la bonne nouvelle que Dieu nous aime, qu'il ne nous a pas abandonnés au pouvoir de la mort, qu'il est venu sur la croix pour nous sauver et qu'il veut le salut de chacun d'entre nous.
Merci beaucoup Olivier. Donc je rappelle que ce dimanche, c'était le dimanche 12 avril, dimanche de la Divine Miséricorde. Merci beaucoup pour votre témoignage.